Avant de lancer l'excursion, on tenait à vous dire que Tête Beaulieu est soutenue par la Maïf, assureur de référence des tiers-lieux en France.
Pourquoi ? Parce que comme nous, la Maïf souhaite mettre en lumière les belles initiatives de nos territoires, en local et au national. Et ensemble, nous sommes convaincus que les tiers-lieux sont des solutions concrètes pour faire bouger les lignes et inventer une société plus solidaire, collective et durable.
Retrouvez plus d'infos sur la protection et l'accompagnement de la Maïf pour tous vos projets, vos lieux, dans la bio de cet épisode. Et maintenant, jingle !
Être reconnu, respecté, écouté, accompagné, aimé tout simplement. La fraternité, c'est une belle idée, c'est un supplément d'âme pour la République.
Emmaüs, ça a fait quoi ? Ça m'a changé la vision du monde. Ça a ouvert le cœur, ça a ouvert les yeux, ça a ouvert les oreilles. Et ça, ça restera à jamais. Et ça doit se transmettre et perdurer. En mémoire de l'abbé Pierre, aidons-nous à nous aider les uns les autres.
Salut, c'est Déborah.
Salut, c'est Anaïs.
Bienvenue dans ce quatrième épisode de la saison 3 de Tête Beaulieu. Cette saison, on vous l'a dit, on rembobine. On part à la découverte de lieux qui ont marqué l'histoire et qui auraient pu inspirer le mouvement des tiers-lieux.
On vogue à droite, à gauche, à la rencontre de lieux du social, de la culture, de l'éducation populaire, de l'écologie et plus si affinité.
Et cette fois-ci, on vous embarque dans la petite bourgade de La Couronne, à quelques vingtaines de minutes de la ville de la BD par excellence.
J'ai nommé Angoulême, pour celles et ceux qui ne l'ont pas. Mais là on vous emmène, c'était plutôt l'industrie du papier d'ailleurs qui primait. Au XXe siècle, il y avait plus de 40 moulins en activité ici.
Et pour vous mettre un peu plus sur la piste du lieu qu'on découvre aujourd'hui, si je vous dis appel du 1er février 1954, est-ce que ça vous parle ? Ce jour-là, un certain Henri Grouès, que tout le monde appelle l'abbé Pierre, crie sa révolte dans un appel vibrant pour les 100 logis de France.
Et tenez-vous bien, le jour de l'appel, il fait près de moins 15 à Paris. Imaginez un peu.
Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent.
Autant dire que ce monsieur, qui était inconnu à l'époque, a passé toute sa vie à vouloir sortir les gens de la misère et qu'il ne s'est pas arrêté qu'à la France.
À la suite de cet appel d'ailleurs, en mars 1954, cet abbé Pierre en question, il crée l'association Emmaüs Solidarité, que vous connaissez tous aujourd'hui, et dont l'objectif est d'accueillir, d'accompagner, d'héberger et de loger les personnes à la rue.
Mais alors quel est le rapport de tout ça avec les tiers-lieux, dis-moi ?
Eh bien, le rapport, c'est que dans ces communautés, on explore depuis plus de 70 ans les questions de solidarité sous toutes leurs coutures, de gouvernance aussi, de revalorisation des déchets, d'habitat en communauté où se mélangent les publics, les nationalités, les vécus.
Et c'est vrai que l'on trouve ces lieux un peu partout en France, dans les villes comme dans les campagnes plus lointaines. Il y en avait une près de chez moi quand j'étais petite, je me souviens. Et c'était des communautés qui redonnaient vie à des personnes totalement écartées du système, aux territoires oubliés, aux bâtiments abandonnés.
Alors, avec Hervé, Camille, Condé, Martine, Fabrice et bien d'autres encore, préparez-vous à embarquer pour un voyage au milieu des visages des compagnes et compagnons de la communauté Emmaüs La Couronne.
Et c'est reparti pour un tour!
Tiens, tiens, quand on parlait de la ville de la BD, on se retrouve nez à nez avec le menhir d'Obélix sur le parvis de la gare. C'est bien une première, ça.
Et t'as vu là-bas cette grande fresque sur le mur de l'immeuble ? 1000 milliards de 1000 sabords. On dirait bien que ça reprend les aventures de notre cher Tintin, non ?
Et d'ailleurs, tu sais pourquoi Angoulême rime avec BD, toi ?
Évidemment, c'est pour son immense festival international de la BD, créé en 1974. Des dizaines de milliers de passionnés viennent chaque année pour ce rassemblement. Ça a l'air d'être une fierté nationale ici.
Ah, mais je comprends mieux. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y avait tant de papeterie à l'époque alors ?
Pas tellement, non. On parle d'une autre époque, très chère. Ça date des années 1800, un temps où les gens s'écrivaient encore des lettres plutôt que des SMS, tu sais. Qu'est-ce que j'aurais adoré d'ailleurs connaître des échanges épistolaires avec des amours lointains.
Et d'ailleurs, en parlant de papeterie, on arrive enfin à destination et regarde ce qu'il a écrit sur ce panneau au croisement là-bas. Rue des Compagnons d'Emmaüs.
Ça ressemble bien à un vieux bâtiment industriel tout ça, non?
Ça a l'air vraiment, vraiment immense. Mais t'as raison. Et ça me revient, on m'a raconté que c'est en 1984 que la communauté Emmaüs a posé ses valises dans cette ancienne usine de papier, justement.
Eh ben, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Je crois même qu'on va avoir droit à un petit retour en arrière sur l'histoire de ce lieu avec un certain Jean.
Je m'appelle Jean. Mais je ne suis pas originaire de la Couronne. Madame est de Grenoble, moi je suis originaire de l'Eure, dans le 27. Je suis d'origine normande. J'ai un lien très, très profond avec Alamy-Jean Lacroix, c'est-à-dire avec le moulin de Collard, c'est comment on dit ça. Parce que j'ai été engagé comme manœuvre, et puis progressivement j'ai passé un peu dans tous les postes, et j'ai fini directeur technique, voilà. De 1956, la date, à 14 juillet, j'ai été engagé en 14 juillet, jusqu'en 77, à la fermeture en 77. On produisait du papier classique, c'est-à-dire ce genre-là, entre autres, mais d'allant d'un grammage de 100 grammes à 250 grammes sur la machine qui se trouvait le long du canal. Là. La deuxième machine, c'était qui longeait le chemin et qui descend qui va au village là-bas, et qui, elle, ne produisait que du papier pour sulfurisation, qui ensuite était traité dans le fond de l'usine, dans une enceinte de sulfurisation, l'acide sulfurique, et lavage, séchage, etc. Parallèlement, il y a beaucoup d'usines qui ont fermé, les papeteries de la Couronne, qui étaient justement à l'entrée de la Couronne, avaient terriblement baissé à l'époque, à tel point qu'ils se sont expatriés sur Roulet, en plus restreint. Donc tout ça, c'était des clients qui disparaissaient progressivement. C'est bien que ces bâtiments, ce site, servent à Emmaüs, entre autres, qui lui-même apporte beaucoup de choses aux gens, hein, ne serait-ce que ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité de s'approvisionner en matériel, en choses que si vous allez en grande surface, vous ne pouvez pas vous les offrir. Alors que là, bon...
C'est vrai que c'est bien beau comme suite. Ici s'écrit un nouveau morceau de vie.
Faut dire qu'ils sont quand même sacrément bien lotis ici, les compagnies et compagnons, franchement. T'as la petite rivière qui passe juste en dessous du moulin, de son doux nom, la Bohème. Une bâtisse digne d'une vraie maison bourgeoise pour loger tout ce petit monde, la cantine, etc. Enfin bon, d'extérieur en tout cas, ça a l'air plutôt pas mal.
Attends un peu, la suite de la visite, c'est pas pour maintenant, Débo. Tu vas trop vite en besogne. Par contre, faut vraiment qu'on se bouge pour aller voir l'ouverture des portes. C'est à 14h pétante et il paraît que c'est un sacré, sacré spectacle.
Oula, eh bien, vite, 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 hein. Je veux pas rater ça, moi.
Hein. Ah, c'est dingue, tu vas voir, ils vont tous courir comme des fous. On peut dire qu'il y a un engourdeur de cachet quelque part. Et c'est phénoménal, hein. Là, je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde à l'entrée, mais quand il y a 100 ou 200 personnes, je les vois courir. Faut pas être devant, quoi. Si on est habitué à se faire converser. Ouais, bah là, oui, ça va courir un petit peu, parce qu'il y a 2-3 habitués. Il y a beaucoup de brocanteurs, des choses comme ça, qui achètent ici pour revendre après sur les brocantes, quoi.
Vous les reconnaissez, les habitués?
Oui, bah, il y a les habitués, quoi. Là, là-bas, quand ils vont passer, ça va être la folie, quoi. Et encore, là, il n'y a pas beaucoup de monde, encore. Là, il y a un monsieur, là, qui a le jean bleu clair, là. Un coup, c'est lui, un coup, c'est sa femme. C'est les habitués, tous les jours ils sont là. Quoi. Bon, ça crée des liens quoi, quand même. Quoi.
Ils sont contents, ils sont pas promis.
Eh ben dis donc, c'est pas rien leur histoire, hein. C'est carrément des dingos en fait ces brocanteurs. Bientôt ils seraient prêts à te marcher dessus, je te jure.
J'imagine même pas ce que c'est quand ils sont 200 ou 300 les cocos.
On racontait tout à l'heure comment tout a commencé avec l'abbé Pierre, mais toi tu sais comment cette communauté-là elle a vu le jour ?
Écoute, le seul truc que je sais c'est que ça a ouvert en 1984 comme on le disait, mais après comment, pourquoi, non, pas vraiment.
Bon, bah, ça tombe bien parce que là-bas, il y a un grand monsieur avec les lunettes rondes là et la barbe grisonnante. Mon petit Thomas dit qu'il avait un sacré vécu avec cette communauté de la couronne.
Jean-Claude, je suis également bénévole à Emmaüs Angoulême Cognac Confolent. Moi, j'ai découvert Emmaüs en 1971 avec les camps internationaux de jeunes et depuis, je n'ai pas quitté. Voilà. Et j'ai été président 6 ans de cette belle association. Et nos statuts limitant à 6 ans, ça permet le renouvellement. J'ai cédé la place à Benoît, que j'accompagne avec beaucoup de bonheur. Et je suis resté vice-président pour le moment. Comment je suis rentré dans le mouvement Emmaüs en 1971 avec les camps internationaux de jeunes? Il y avait beaucoup moins de communautés qu'aujourd'hui. Et donc l'idée était d'abord de rassembler des jeunes du monde entier autour de ce concept d'humanisme, de solidarité. Et à travers ça, sur un territoire donné, pendant quelques mois, de faire naître peut-être une communauté future. Ici, c'était 1971 sur le Poitou-Charentes et voyez, la communauté est née en 1985. Depuis, elle existe, assez développée sur d'autres sites que son site historique, à Cognac, à Confolens, elle continue de le faire sur le sud de Charente aujourd'hui. La vie de l'abbé est magnifiquement résumée, évoquée dans un film récent, je ne veux pas revenir. Pour moi, c'est Georges. Sortant de prison, sortant du bagne, désespéré, et qui s'adresse à l'abbé Pierre, et auquel l'abbé Pierre dit « Je peux rien pour toi, mais toi tu peux entre autres venir m'aider à aider ». C'est le point de départ. C'est ce qu'on pratique tous les jours en accueillant des compagnes et des compagnons qui peuvent penser qu'ils n'ont plus rien à espérer de la vie, et à qui on dit « Mais si, t'as tout à espérer précisément, parce que tu peux aider à aider ». Tu peux te reconstruire, tu peux retrouver ta dignité, ta première maison. On a un vieux compagnon ici qui dit « quand on a la dignité, on peut se passer de beaucoup de choses » et il a raison. C'est ça qui compte d'abord, la dignité, se remettre debout. C'est sans doute là que j'ai été le plus transformé. Parce que cette façon de procéder réinterroge sur soi-même en permanence. Et je dis souvent à des compagnons, quand on part le soir, on n'est pas le même que quand on est arrivé le matin.
Donc, je m'appelle Xavier et je suis responsable à Emmaüs Angoulême depuis 2002. De nombreuses années ont passé et c'est vrai que je suis arrivé dans un contexte où la communauté était en grande difficulté. Et avec Bernard, donc nous étions co-responsables, nous avons commencé à rebâtir quelque chose, reconstruire une vraie activité et puis surtout un esprit solidaire, mais également refaire groupe avec un cadre qui l'accompagne. Alors, il faut savoir qu'en 96, 1500 m² de salle de vente ont brûlé. C'était un incendie criminel, que la communauté s'en est pas vraiment remise. Et après cet incendie, le redémarrage a été difficile parce que toutes les différentes composantes d'Emmaüs ont voulu mettre la main sur cette communauté, comme si il fallait la piloter de l'extérieur. Et donc, ça s'est déterminé en quelque sorte en 98 ou 99, lorsque une des fédérations d'Emmaüs a décidé d'affecter des responsables sur cette communauté. Sauf que moi, je suis arrivé en 2002, et en l'espace de 3 ans, 13 responsables s'étaient succédés. Ou plutôt, j'étais le 13e. Et lorsqu'on m'a arrivé, le mot d'accueil, c'était « Bienvenue, t'es le 13e ». Ça voulait dire « À quand le 14e ?» Il se trouve qu'il n'y a pas eu de 14e avant. Plutôt 10 années ont passé pour voir arriver le 14e. La 14e, voilà.
Ah ouais, ça a dû vraiment pas être simple tous les jours dans les années 2001, quand tu l'entends.
Et quand je vois à quoi ça ressemble aujourd'hui, bah, y a un sacré boulot de fait, hein, punaise.
Mais c'est beau de voir que l'énergie d'une poignée de personnes a permis de relever ce lieu de ses cendres, en tout cas, tel le phénix.
Et ça fait pas longtemps qu'on est là, mais tu sens qu'il y a une énergie débordante ici. Rien qu'à voir toutes ces bénévoles qui s'activent depuis ce matin devant cette immense montagne de vêtements à trier.
T'as raison, on dirait une vraie petite ruche d'abeilles, celle-là. Par contre, moi je remarque depuis ce matin qu'il y a quand même beaucoup plus de nanas que d'hommes parmi les bénévoles, non?
Ouais, et je crois que c'est l'inverse au niveau des personnes accueillies ici justement qu'on appelle des compagnes et compagnons. C'est ceux qui sont hébergés, qui travaillent ici, qui font communauté, quoi. Et je crois que, au doigt mouillé, il y a 20% de femmes et 80% d'hommes.
D'ailleurs, tout ce qu'on voit dans ce grand hangar-là, c'est destiné à la salle de vente, c'est ça? Mais ça veut dire quoi? Qu'Emmaüs, c'est un magasin, en fait?
Oula, mais non, mais t'y es pas du tout. C'est bien plus que ça. Tout ça, c'est parti de l'idée d'un compagnon dans les années 50, quand la première communauté parisienne était en manque de ressources. Et en gros, il a proposé que les compagnons deviennent des chiffonniers.
Chiffonniers? Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est des gens qui, à l'époque, y récupéraient des trucs dont les autres voulaient plus. Du vieux papier, des chiffons, mais aussi la ferraille et puis plein d'autres trucs.
Ah, mais alors ils ont développé un vrai modèle d'économie circulaire, sociale et solidaire sans le savoir. Faut croire qu'ils étaient carrément précurseurs.
Et c'est d'ailleurs une grosse partie des ressources qui font vivre les communautés d'Emmaüs aujourd'hui. Parce que dans le mouvement, il n'y a aucune subvention publique. Tout est autofinancement. Et ça, c'est pour garantir un pouvoir d'action totalement libre. Je trouve ça vraiment badass.
Ouais, c'est engagé, hein. Autrement dit, si les dons viennent à manquer, bah ça met à mal leur modèle économique. C'est une vraie démarche vertueuse.
En parlant de bénévoles tout à l'heure, j'ai bien envie d'aller prendre un petit café et de savoir comment tout ça s'articule entre bénévoles, compagnes et compagnons.
Si tu devais donner trois mots qui t'évoquent ce lieu, cette communauté, ce serait lesquels ?
Amour, solidarité, confiance et s'aider les uns les autres. Ici, c'est ça, on s'aide les uns les autres.
Solidarité, bien sûr, amitié, et le troisième, générosité.
L'accueil, la solidarité et l'interpellation.
Bonjour, je m'appelle Martine Rouault, je suis à la boutique Rétro. Je viens à Emmaüs, je crois que ça fait 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Voilà, et j'aime bien cet endroit qui est très agréable. Je suis arrivée ici parce que j'avais plusieurs amis qui venaient et qui me disaient tout le temps « Emmaüs, tu devrais venir, c'est super, c'est super ». Alors quand je travaillais, ben, j'avais pas de disponibilité, mais dès que j'étais là, je me suis retrouvée à la retraite. Je suis venue ici parce que elle m'en parlait avec tellement d'enthousiasme que j'ai eu envie de venir, et je reconnais qu'elles avaient raison, parce que c'est un endroit super. On côtoie des gens. Moi, au départ, je me disais, oh là là, ça va être lourd, ce sont des gens en difficulté. Eh ben, pas du tout, du tout. Hein. C'est joyeux, c'est gai, on s'entraide beaucoup, on partage avec les compagnons et les compagnes. Alors, comme disait Louisette, bien sûr, on a des affinités avec certains, moins avec d'autres. Hein.
Moi, c'est Danielle Baudu, donc je suis à la boutique bébé. Je suis bénévole depuis 3 ans. J'ai été embauchée par ma sœur, qui est bénévole ici, qui avait besoin de main aussi, pour le même rayon. Moi, ce que je trouve merveilleux dans Emmaüs, c'est que les compagnons sont aidés, mais ils travaillent. Et ce qui est quand même autre chose que de leur redonner systématiquement quelque chose sans contrepartie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire qu'ils participent allègrement à l'essor de cette communauté. Hein.
Je m'appelle Fabrice Gabriel, je suis compagnon d'Angoulême, la communauté d'Angoulême. Puis là, vous êtes sur un site merveilleux, déjà. Et puis, je suis chauffeur, voilà. En fait, on est 3-4 chauffeurs et à tour de rôle. Bah, une semaine sur deux, bah, on va chercher les compagnons et on va les ramener au bus. Et on fait les courses aussi, le mardi, jeudi et samedi, pour que les compagnons puissent aller faire leurs courses au lieu d'aller à pied tout le temps, quoi. En fait, j'ai adhéré à Emmaüs donc, en 2013, suite à une séparation. Donc, et avant ça, bah, j'ai travaillé beaucoup comme chauffeur et juste avant, j'étais militaire. Donc voilà. Et quand je me suis séparé de ma compagne, je ne savais pas trop quoi faire, soit rentrer en Belgique dans ma famille, ou soit rester en France, mais je voulais rester en France pour mes enfants. Et comme je n'aime pas rester tout seul, je me dis, bah, je vais essayer les communautés d'Emmaüs, que j'avais vu une pub à la télé, et j'ai essayé, et puis depuis, bah, voilà, j'ai adhéré. Quoi. Et je ne pense pas que je suis prêt à court de partir, mais je me donne encore une dizaine d'années, puis après je rentre chez moi, à la retraite d'ailleurs. Voilà. Dès que j'ai ma retraite, bah, je vais m'occuper de ma famille, quoi, en Belgique. Pour moi, ici, c'est ma deuxième famille, en fait. Parce que on s'entend bien, les responsables sont vraiment sympas, ils sont à notre écoute, puis ils font attention à nous, quoi. Donc, pour moi, c'est une famille, quoi. C'est une grande famille, et de partage. Quand je suis arrivé ici, ben, on m'a très bien accueilli. Parce qu'en plus, vu que j'étais chauffeur, ils partaient à la mer ce week-end-là. Donc, ils avaient besoin d'un chauffeur. Donc, je suis parti à la mer avec eux. Donc, et j'ai passé une excellente journée. Ils m'ont vraiment bien, bien accueilli. Dans d'autres communautés, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Les gens, ils te mettent un peu à l'écart le temps qu'ils apprennent à te connaître. Ils se méfient un petit peu, quoi. Parce que y a pas mal d'étrangers. Donc, ils n'ont pas la même façon de vivre comme nous. Mais sinon, en règle générale, l'intégration se passe bien, quoi. Il faut un peu de temps, mais après, une fois que t'es accepté, quoi. Mais sinon, en règle générale, on essaye d'être soudés, d'être ensemble, parce qu'on est une communauté. Donc, si maintenant, on ne s'aide pas les uns les autres, ça ne pourra pas marcher. En général, les bénévoles, c'est tous pareil, dans toutes les communautés. Ils sont là pour nous aider, on est là pour les aider. Puis, sans bénévoles, Emmaüs ne marcherait pas non plus. Ah non, c'est très important que Emmaüs ait des bénévoles. Franchement, moi, sans bénévoles, on n'y arriverait pas. Parce qu'ils nous donnent énormément de coups de main, et puis on parle beaucoup avec eux, ils nous aident aussi. Psychologiquement, mentalement, ils nous aident beaucoup. Donc moi, ici, les bénévoles, j'ai aucun problème avec eux, tout se passe très bien. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir accepté. Ah non, franchement, il faut des bénévoles à Emmaüs. Sinon, les communautés ne pourraient pas marcher.
Ce à quoi on tient ici, mais je crois que c'est vrai dans beaucoup de communautés, c'est à la vie de ce qu'on appelle, nous, le trépied. Une communauté, c'est des compagnes, des compagnons, des bénévoles, des salariés, trois composantes. Je dis souvent, personne n'a de réel pouvoir sur personne. Un compagnon, il n'est pas salarié. Il n'y a pas de lien de subordination, il n'y a pas de contrat. Un bénévole, c'est encore plus libre, j'allais dire, qu'une compagne ou un compagnon. Nos salariés, sept aujourd'hui, ils sont salariés de l'association, mais ils sont sous la responsabilité de deux responsables qui ne sont pas salariés de l'association, mais de l'association des communautés, une espèce de groupement d'employeurs. Et donc, en fait, on s'aperçoit assez rapidement que personne n'a de pouvoir sur personne. Ce qui surprend les autres militants associatifs qu'on peut rencontrer, qui nous disent « Mais comment ça marche, un truc où personne n'a de pouvoir sur personne ?» Et je dis souvent, on a un carburant un peu particulier, on appelle ça l'intelligence collective.
Eh, c'est carrément ingénieux leur idée de trépied, non ? C'est bien la première fois que j'entends ça. Et ça montre une forme d'interdépendance. J'aime bien l'idée.
Et ça veut bien dire aussi que chaque famille d'acteurs n'est rien l'une sans l'autre. C'est symbolique, ça. S'il manque un pied, la démarche perd son équilibre et son sens, donc aussi. Ça fait référence à ce que disait Fabrice. Ici, on sent bien qu'on est dans une grande famille.
Et comme dans toutes les familles, y a aussi des difficultés, hein. C'est pas tout rose tous les jours non plus, hein. Tu sais qu'il y a quand même 58 compagnes et compagnons ici. Et plus d'une vingtaine de nationalités représentées, dis-toi bien. Et ça doit pas être facile tous les jours à orchestrer tout ça, hein.
Surtout que les compagnes et compagnons sont souvent dans des situations perso quand même assez compliquées. Et il faut composer avec toutes les sensibilités, les religions, les ethnies, les vécus.
Moi, ce que j'aime bien aussi ici, c'est que tout le monde se tutoie. Ça met direct dans le bain, je peux te dire.
Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu le malheur de vous voir Marie-Hélène tout à l'heure. Elle m'a repris direct, je peux te le dire. Évidemment, avec le sourire.
Et pour revenir au modèle de gouvernance, je commence un peu à comprendre comment ça fonctionne ici en interne à la couronne, ok. Mais c'est quoi les liens, à ton avis, avec la Fédération Emmaüs au niveau national, en fait ?
Toutes les communautés Emmaüs ont un statut juridique particulier. Emmaüs France a son statut, est une fédération en quelque sorte. La communauté a son statut, est une entité de la fédération. Elle n'a pas de compte à rendre, mais par contre elle a une cotisation, une adhésion, un contrat d'affiliation. Donc il y a des liens clairs entre les deux, mais on est quand même une association indépendante qui relève du droit et donc il faut l'assumer. Quand on est responsable, je crois qu'il y a une vraie nécessité d'être garant d'un équilibre. Bon, cet équilibre, il est fragilisé tous les jours. Ça va être du côté des bénévoles où il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées. Ça va être du côté des compagnes et des compagnons. Ça va être un jour au niveau des salariés. Et notre devoir, il est de créer les conditions pour que les gens soient à la fois à l'aise dans leur fonction, dans leur travail, dans leur activité, qu'ils sachent clairement ce qu'ils ont à faire et qu'ils soient reconnus pour ce qu'ils font. La clé, c'est une équipe dans la durée. La stabilité des communautés est très dépendante de la stabilité des équipes, j'ai envie de dire permanentes, mais surtout des équipes responsables. Je pense que les bénévoles ont un grand rôle à jouer. Ils apportent aussi de la stabilité d'une certaine façon, parce qu'ils peuvent rester très longtemps. Mais je pense que l'articulation entre les compagnes et les compagnons au travail, les bénévoles, eh bien, c'est une équipe responsable qui a le devoir de créer les conditions d'un équilibre autour de valeurs d'une part, mais aussi d'un cadre assez précis de fonctionnement.
Je m'appelle Condé Ibrahima Sourideu, compagnon à la couronne Angoulême, compagnon à responsabilité, membre de CEA, référent du collège régional, la région Nouvelle-Aquitaine, R3. Être compagnon à responsabilité ou référent des compagnons, c'est une responsabilité confiée à quelques éléments des compagnons qui font, c'est-à-dire qui sont le pont entre les responsables et les autres compagnons. Des fois, les responsables ne peuvent pas être présents. Un compagnon responsable peut prendre une décision et assumer. Mais cela ne signifie pas qu'il est au-dessus des autres, non. Mais c'est seulement comment organiser l'activité. C'est surtout ça. C'est la base. C'est ça le rôle d'un compagnon à responsabilité ou référent des compagnons. Des fois, quand on se croise avec entre compagnons et compagnes, on se dit, ah, c'est vous, ça va? Est-ce que réellement... Parce que d'abord, la plupart des compagnons aujourd'hui, ce qui est un peu gravé dans leur tête, c'est le papier. Nous, les migrants. Et moi, je dis souvent, avant tout, c'est pas le papier. Parce que quand toi, tu pleures pour avoir le papier, il y a des gens qui ont la nationalité qui dort dehors. Malgré que tu n'as pas de papier, tu n'as rien, tu n'es pas dans les règles, mais tu vis mieux. Tu es sous un toit, tu es couvert. Alors, il faut mettre en. C'est-à-dire, il faut montrer l'image d'Emmaüs, la valeur d'Emmaüs. C'est ça d'abord, avant tout. C'est ça la valeur.
Je fais partie du collège des compagnons. Donc, par région, on a un collège tous les trimestres. Et là, on se réunit entre compagnons et on parle de choses et d'autres qui ne vont pas dans les communautés. Et aussi pour savoir nos droits. Et les droits des responsables et tout ça, ce qu'ils peuvent faire et nous, ce qu'on peut pas faire et ce qu'on peut faire. Et voilà quoi. Mais c'est le collège des compagnons, moi je trouve que c'est très important. Parce que, c'est encore une fois, c'est un rassemblement où les compagnons, on a la parole, où on est écouté. Après, on fait des demandes, ça va au lieu. Soit c'est accepté, soit c'est pas accepté. Mais souvent, c'est accepté. Et là, il y a pas longtemps, j'ai été à Paris, j'ai été au salon régional des compagnons, où là, il y avait eu une cinquantaine de communautés, on était pas mal. Et là, on a débattu sur pas mal de choses, quoi. C'est pour ça que le collège existe. C'est surtout pour protéger les compagnons aussi. Pouvoir, et puis surtout apprendre les droits qu'on a, quoi. Parce que si on s'engage dans un mouvement et qu'on ne sait pas les droits qu'on a, on peut faire des bêtises et pas savoir. Ou alors se prendre la tête avec nos supérieurs et que ils n'ont pas le droit de nous prendre la tête comme ça. Donc c'est pour ça que le collège des compagnons existe. C'est surtout pour nous donner une défense et apprendre ce que c'est Emmaüs, quoi.
Donc ici, tout le monde a sa place dans les décisions, c'est ça ?
Yes ! Bon, avec une juste mesure, évidemment. Mais en tout cas, je trouve ça fondamental de savoir que les compagnes et compagnons ont des instances en non-mixité pour échanger entre eux et comprendre en fait quels sont leurs droits, peu importe qui ils sont et d'où ils viennent.
Ouais, j'ai entendu que c'était pas vraiment le cas dans toutes les communautés par contre. Hein. Des scandales ont éclaté ces derniers mois dans le nord et le sud-ouest de la France.
Et je crois que ça fait que s'amplifier dû au fait que les communautés accueillent de plus en plus de personnes migrantes, faute de dispositifs mis en place par les pouvoirs publics, faut pas se mentir.
Il faut aussi rappeler que les compagnes et compagnons n'ont pas de contrat dans les communautés et ne touchent pas de salaire, seulement un pécule. Mais tous les frais de vie sont couverts et pris en charge par la communauté qui héberge.
Pas de contrat? Non mais c'est chaud ça, non?
Dans les faits, on pourrait croire que ça l'est, mais en fait, certaines personnes ne sont pas régularisées, donc techniquement, c'est impossible. Il y a un contrat moral entre les deux parties, voilà tout.
Le côté vraiment négatif de tout ça, c'est que le mouvement Emmaüs au sens large en prend un sacré coup à chaque fois qu'une communauté fait un peu de la merde, quoi. C'est un peu un trou dans la raquette, j'ai l'impression, au niveau gouvernance, non ?
Tu veux dire quoi par là ?
Bah, que c'est difficile pour le mouvement de se retourner contre les communautés concernées, puisqu'il n'y a pas vraiment de lien direct entre Emmaüs France et eux.
Bon, et sinon, on a déjà découvert un peu les lieux avec notre ami Jean, mais il serait pas temps de faire une petite visite grandeur nature ?
Oh, que si !
De ce côté, on a deux portes, là, les deux portes. En fait, ce sont les chambres pour recevoir les personnes orientées par le 115. Donc, on en reçoit quasiment 5 par semaine. Donc, ils viennent chaque semaine, ils se relaient. Là. Alors, ici, c'est le bar où les compagnons viennent se récréer pendant la pause ou le soir, après le travail. Donc on se retrouve ici, c'est un peu notre salle de jeu où nous passons du temps. Voilà. On va passer de l'autre côté. Donc en face, on a le réfectoire où on mange le matin à 7h30, à midi, midi 15 maximum, et puis le soir 19h pile. Alors, là on a le grand parc. C'est... bon... pour ceux qui aiment se promener, profiter un peu de la nature, ben voilà, on a le parc et juste à côté, on a notre canal. Par contre, on ne peut pas pêcher par période. Ah oui. Il y a du poisson, il y a du poisson.
Oui. Qu'est-ce qu'il y a ?
Du coup, on va remonter. Alors ici, comme vous pouvez le lire, on est sur la rue des Ateliers. Et sur cette rue, il y a les différentes boutiques qu'on voit là-bas. Mercerie, bébé, rétro. Donc la mercerie, c'est là. Le rétro, c'est juste à côté. Et puis derrière, ce sont les bébés. Donc au rétro, c'est tout ce qui est vintage, veste, blouson. Assez chic, on va dire. Bonjour Bernadette.
Bonjour.
Je fais la visite.
Tu veux m'interviewer ? T'exagères. T'aurais pu prévenir. Je me serais un peu pomponnée.
Donc là, juste à notre gauche, ben, c'est le stand La Cour. Il y a aussi l'électroménager et la Hi-Fi. Donc où on a des télés, des petites choses comme ça, des radios. Ça, c'est par là, des baffles à la Hi-Fi, tout ce qui est luminaire chez Sally. Donc là, il y a la caravane à crêpes, parce que des fois, on organise des ventes exceptionnelles, telles que la semaine dernière, on avait une vente spéciale Noël, où on a dû inviter des personnes du Téléthon, et eux, ils ont vendu des crêpes. Donc ça nous arrive de travailler comme ça en partenariat avec d'autres associations. Et juste après, on a les bibelots, les instruments de musique, les tableaux, les cadres. Ici, c'est un peu la caverne d'Ali Baba.
C'était sans fin cette visite, mais j'ai adoré. Je me sens chanceuse de voir tout l'envers du décor avec plein d'étoiles dans les yeux, j'avoue. Depuis le temps que je fréquente Emmaüs, j'imaginais pas du tout ce qui se cachait derrière la salle des ventes.
Bon après, je reste un peu sur ma faim quand même parce que j'avais bien envie de visiter les espaces de vie des compagnes et compagnons.
Oui, mais je crois que c'est un vrai truc de protéger leur intimité et en même temps c'est quand même normal. Les gens sont souvent ici pour se redonner une dignité.
Ça va toi, je suis d'accord avec toi.
En tout cas, j'ai adoré voir aussi tous ces vestiges du moulin à papier. Ça m'a fait marrer d'ailleurs quand on est parti à la chasse aux meuleuses dont Jean se souvenait à l'espace bouquinerie.
Ah oui, juste là, sur la mezzanine. Bon, en même temps, comment les rater, hein, tellement elles sont grosses. Moi, en tout cas, j'ai kiffé le bâtiment de la salle des ventes avec ses grandes vitres arrondies. Et t'aurais vu cette lumière de fin de journée passer au travers tout à l'heure. au milieu de cette cinquantaine de canapés. Oh là là, c'était un beau moment. Hein.
J'imagine que la lumière sur les canapés était incroyable. Bon. Après, il y a quand même pas mal d'endroits vétustes, on va pas se mentir. Hein. Et niveau chauffage, je t'en parle même pas. J'ai vu les compagnons et bénévoles enfiler des couches comme des petits oignons pour éviter de se cailler.
Mais en même temps, d'un point de vue écologique et économique, t'imagines la galère pour chauffer tout ça ? Les gens ne sont pas assez habitués à se saper contre le froid, moi je te le dis. Hein.
Pour le moment, j'ai un gros pull en laine. J'en ai vu un pas mal tout à l'heure dans la boutique rétro. Ça se pourrait que je craque et que j'en mette un autre par-dessus, j'avoue.
Je m'appelle Isabelle Lajugy. J'habite à Châteauneuf. Et j'ai 57 ans. J'ai toujours aimé aider les associations. D'ailleurs, j'ai fait partie des Restos du Cœur pendant 7 ans. Et voilà, quand on sait qu'on donne de l'argent pour aider d'autres personnes, je trouve que c'est une des plus belles choses à faire, quoi. Voilà. Et comme on trouve de tout, je commence toujours mes achats par là. Toujours. N'importe quels achats, je commence par Emmaüs. Après, je vais... Tout a une pièce. Les meubles sont dans un endroit, les habits sont dans un autre. Avant, il y avait quand même un peu plus de mélange. Voilà. Et de voir que les habits sont sur un cintre, je veux dire, le choix est fait. Les jouets pour Noël, le choix est fait, quoi. Les décorations. Enfin, quand on voit ce prix-là et qu'on peut se permettre de décorer une maison, maintenant, avec les tarifs qu'on trouve à droite et à gauche et que plus personne ne peut payer vraiment quelque chose, c'est génial, quoi. C'est ça. On trouve, pour ainsi dire, de tout, quoi. On ne trouve pas comme dans les magasins des gens brutaux. Les gens viennent là parce que tout de suite, ils ont une forme de respect. N'importe quelle classe. Et ça fait du bien aussi. De dire, on peut se croiser, on peut se bousculer, c'est cool. Quoi. Enfin, il n'y a pas de... On sourit. Et qu'on voit toutes ces personnes. Moi, je sais, je plaisante avec eux, avec les gens qui sont là. Chaque fois, je leur dis bonjour. Et que si mon argent peut permettre de faire circuler les affaires au lieu de les jeter, et qu'en plus, peut permettre à des gens de vivre un peu mieux... que de rien. Moi, j'ai tout gagné. Ma journée, elle est belle, quoi. En plus, je suis quelqu'un qui fait des créations, donc même dans la vaisselle, on trouve de tout. Donc, je vais prendre une série de verres et on va graver. Donc, on achète, on fait plaisir, on a un cadeau, on peut faire sa création et on a fait du bien aux gens. Enfin, je veux dire, après, qu'est-ce que vous voulez demander de plus, quoi. J'ai l'impression de faire du bien à la nature, à la vie et aux gens. Alors... Moi, c'est mon principe de vie maintenant, donc voilà.
Ça me va bien, moi, de me dire qu'on peut encore bousculer les gens avec le sourire.
Ça, c'est sûr que c'est pas l'ambiance métro parisien, quoi. Et on en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais effectivement, dans cette notion de trépied, chez Emmaüs, l'acheteur ou le donateur a aussi un rôle important.
Ouais, et la difficulté aujourd'hui, c'est un peu de faire passer ce message, je trouve. Parce que la nouvelle génération, elle connaît moins toute cette histoire. Et le capitalisme a carrément gangréné jusque dans ces lieux de solidarité. Par exemple, Vinted, pour ne pas les citer, ça fait beaucoup de mal à Emmaüs.
Mais genre quoi, c'est un concurrent ?
Clairement, oui, ça l'est. Mais c'est la version bien lucrative dégueulasse, tu vois.
Et franchement, entre nous, je me demande pourquoi les gens sont prêts à s'embêter avec toute la logistique que ça représente, de mettre dans un carton, l'envoyer, c'est tout un pataquès, pour seulement 1 ou 2 euros le t-shirt.
Et tout ça, c'est dans la belle lignée de l'hyperconsommation du textile, tu sais, avec les Zara, H&M, Shein et tutti quanti. Surtout quand tu sais qu'ils exploitent en plus des communautés entières derrière, c'est vraiment bingo loto, quoi.
Et tu sais qu'Emmaüs avait fait une campagne en 2023 pour expliquer tout ça au grand public, en visant clairement Vinted ?
Ah oui, j'ai vu ça, c'est vrai, sur tous les arrêts de bus. C'était carrément réussi, d'ailleurs.
Aujourd'hui, on voit tous ces grands groupes du recyclage s'accaparer les principes de ressourcerie, de seconde main. Mais Emmaüs a créé ça il y a plus de 70 ans.
Bon, après, faut pas oublier que ça se faisait aussi naturellement dans les familles. Les gens se passaient les vêtements, les meubles, de génération en génération. C'est bien pour ça qu'on parle de meubles de famille.
En tout cas, il y a un vrai enjeu là-dessus dans les prochaines années pour tous les acteurs de ce secteur, c'est certain.
T'as entendu parler du Beta, toi ? C'est un lieu hybride qui a ouvert il y a quelques années dans Angoulême et aujourd'hui, ils organisent un supermarché de Noël. Mais version alterno, tu vois.
J'ai cru entendre ça, ouais. Ça fait des années qu'Emmaüs les a pris un peu sous leur aile, d'ailleurs. Il y a vraiment un côté tisseur de liens dans tous les territoires avec eux.
Et je pense qu'ils sont justement souvent identifiés par les nouveaux lieux et collectifs qui se montent, en mode communauté grande sœur, tu vois.
Oui,
tends l'oreille. T'entends les percussions ? On doit plus être très loin, je pense.
Moi, c'est Thomas. Voilà, bénévole, membre actif au sein de l'association Saxifraga et qui porte le lieu qui s'appelle le Bêta. Aujourd'hui, on est au supermarché du Bêta, donc c'est un marché de Noël qui a lieu tous les ans depuis 3 ans. Là, c'est la 3e année. Et l'idée, c'est de sortir un peu du Bêta, d'ouvrir les portes, de se déployer dans la rue, d'inviter des amis et puis des connaissances, des associations pour monter un moment festif avant les fêtes, quoi. Voilà. Comme on est ancré, ça fait que ce lieu-là, il est repéré et que c'est un lieu de passage génial et qu'il y a plein de gens qui nous contactent et Nico peut en témoigner. Il est juste là. En fait, il reçoit 40 mails par jour de propositions plus diverses les unes que les autres. En fait, ça peut être des ateliers de danse, de théâtre pour le soir. Ça peut être des conférences pour une soirée. Ça peut être une programmation. Ça peut être de la musique. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui se croisent ici au Bêta et c'est ce qui rend le lieu aussi hyper vivant et qui est à chaque fois changeant, quoi. Nous, on n'aime pas trop ce terme de tiers-lieu. Voilà, si je pouvais donner un positionnement. Parce qu'on trouve qu'il est plutôt... qu'il se vide un peu de son sens premier, qui peut, sur la définition, en fait, être chouette. Où là, on peut se retrouver, quoi. Mais moi, je trouve, en tout cas, personnellement, oui, qu'il devient vide. Et pire que ça, je trouve qu'il est plutôt repris par des personnes qui sont plutôt du milieu de l'entrepreneuriat, de la start-up et tout ça. Et nous, ça nous parle pas du tout, en fait, et on n'a pas envie de un tiers-lieu. En fait, comme tu disais, quand on crée quelque chose, on a envie que ce soit simple, en fait, que ce soit populaire, tu vois, et c'est tout. On a été un peu les premiers à s'installer, en tout cas là à Angoulême. Et depuis, il y a eu la SUC, il y a la Baraka, j'en oublie. Il y a la Colline, juste à côté de nous. Et c'est des personnes qui sont dans nos âges, en fait, aussi. Donc c'est plutôt simple. C'est assez naturel, en fait, de se voir, de se parler, de prendre un café et d'essayer d'organiser des choses ensemble. Et sur les interactions, je sais pas, tu vois, là, la Baraka est ici. Elle est venue par le biais de Emmaüs. Emmaüs, par ailleurs, qu'on connaît depuis hyper longtemps et avec qui on a des liens très, très forts. Depuis le début, en fait, on a organisé des festivals chez eux. Ils nous ont prêté énormément de matos. Emmaüs à la Couronne, c'est une grosse communauté. Enfin, vous avez vu, c'est assez énorme. Il y a beaucoup de gens qui habitent. Et voilà, c'est un petit village, en fait. C'est un petit village qui a son autonomie propre, qui fonctionne hyper bien. Enfin, c'est quand même une mécanique bien huilée. Et ouais, ils sont autonomes, quoi. Et sur cette question-là, moi, ça m'inspire... nous, ça nous a vachement inspiré aussi de se dire comment on fait pour ne pas toujours tomber dans ce truc d'aller à la pêche aux subventions, tu vois, tout le temps, et d'être dépendant et sous la coupe de mairies, de départements et de régions. Donc nous, on essaie petit à petit... de se passer de subventions le plus possible, ce qui est pas évident. Mais Emmaüs, pour ça, ils sont incroyables, en fait. Ils sont assez exemplaires parce qu'ils sont autonomes. En fait, si demain il y avait la fin du monde, eux, ils seraient OK, en fait. Ils ont tout. Ils savent tout faire. Ils savent tout récupérer. Ils savent bricoler. Il y a des cuisines géniales. Ils ont leur système de récupération alimentaire, ils sont autonomes et ils sont hyper résilients et cette communauté, en tout cas à Angoulême, elle est hyper belle et c'est pour ça que nous on continue d'entretenir des relations avec eux, quoi, et qu'on a surtout pas envie de perdre ça, ouais.
Non, m'attends pas.
Camille, je suis responsable adjointe à Emmaüs La Couronne. Et donc, on est au BETA, qui est une des associations partenaires de Emmaüs. Déjà, en fait, je pense qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un tiers-lieu. Et vu qu'on est assez... moi, pour avoir été dans le monde associatif, le grand bonheur à Emmaüs, c'est qu'on est hors institution, hors contrainte, hors appel d'offres. Donc en fait, je ne sais pas si on est un tiers-lieu, je ne sais pas ce que c'est qu'un tiers-lieu. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'il y a des possibilités de rencontre, de partage, d'ouverture, eh ben on y va. Et aussi de solidarité. J'aurais tendance à penser que ce qu'il n'y a pas toujours dans les tiers-lieux, c'est la question de la solidarité. La question, c'est comment continuer, parce que l'équilibre, il est fragile tout le temps, tous les jours. Donc je pense que ça, c'est un des enjeux importants. Et après, l'enjeu, c'est plus on se développe et plus on essaye encore de faire d'actions de solidarité. Voilà. Mais on est aussi dans une culture avec Emmaüs de là maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc je ne peux pas dire ce qui va se passer dans les années à venir.
Oh, cette chorale féministe là, elle m'a mis les frissons, je te jure.
Ah ouais, les frissons carrément. En tout cas, c'était très chouette de comprendre dans quelle dynamique se trouve le territoire d'Angoulême et ses environs, de rencontrer tous ces lieux, ces acteurs, ces équipes. Je comprends mieux comment tout ça s'imbrique.
Et moi, j'ai l'impression que le mot tiers-lieu, ça fait pas forcément mouche ici. Hein. Pourtant, il me semble qu'Emmaüs est dans une dynamique pour explorer justement toute cette notion et voir comment faire évoluer leur propre lieu.
Ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent à ce qu'ils voient dans les grandes lignes. Hein. Je crois que pour eux, ce qui est le plus important justement, c'est de garantir que tout est en lien avec la solidarité.
C'est le maître mot, évidemment. Et c'est tout à leur honneur d'ailleurs, parce que dans certains tiers-lieux, lieux tiers, lieux hybrides, comme on veut l'appeler, ça peut carrément manquer ce focus-là.
Et finalement, faut croire que c'est peut-être aussi Emmaüs qui va inspirer le mouvement des tiers-lieux.
Et tous les acteurs de la solidarité et de la citoyenneté, évidemment. Ils sont pas tout seuls. En tout cas, l'aspect collectif et synergie, ça ils l'ont, ça. Hein.
Et je me dis, la société ne deviendra jamais une communauté. Pour autant, est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer un tout petit peu de cette façon d'être, de cette façon d'agir, de ce regard sur l'autre, pour construire autrement? J'aime pas le vivre ensemble, parce que c'est souvent côte à côte, et j'aime pas le côte à côte, mais pour faire commun. Ici, on fait commun. Communauté.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Tête Beaulieu. Un grand merci à François Touchard pour le mixage, à Hugues et Michon pour les musiques originales, merci aux équipes d'Hôtel 71 pour le studio, et bien sûr aux compagnes et aux compagnons, à toutes les équipes de la communauté d'Emmaüs La Couronne de nous avoir accueillis si chaleureusement pour ce séjour incroyable.
Si vous avez aimé ce podcast, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, ce serait un beau coup de pouce pour le projet. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et LinkedIn. Vos remarques, recommandations, petits mots doux nous aident à avancer. Donc n'hésitez pas à nous écrire.
Salut, salut, salut.